Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Il voulait travailler en Afrique et c'est l'Afrique qui est venue à lui. C'est ainsi que l'on peut résumer le parcours édifiant de Biagio Conte. À Palerme en Sicile, ce missionnaire de 53 ans a ouvert un centre pour les plus démunis où se retrouvent aussi désormais tous les migrants qui ne trouvent pas de point de chute sur l'île. Cécile de Barge est allée rencontrer ce personnage hors norme à la vie mouvementée.
En cette messe du matin, les mots de Biagio Conte résonnent sous la modeste coupole de la chapelle. Il parle de différence et de vivre ensemble alors que la veille, une rixe a éclaté dans un quartier populaire de Palerme sur fond de tensions entre les communautés du quartier. Parmi la dizaine de fidèles réunis, presque tous sont hébergés dans le centre mission Charité et Espérance. La moitié d'entre eux sont des migrants.
Entre l'an 2000 et aujourd'hui, c'est impossible de savoir combien de personnes sont passées par ici. Mais tous ceux qui sont venus ont été accueillis. Ils ont trouvé un refuge, un lit, un repas, mais aussi l'occasion de rendre ce qu'ils ont reçu en étant aidés.
En moyenne, 70% des personnes accueillies sont des migrants arrivés en Sicile et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas intégrer les centres d'accueil classiques, faute de place ou faute d'un statut en règle de demandeur d'asile, comme ce migrant gambien qui vit dans le centre depuis bientôt 5 mois.
On a trouvé de l'aide au centre Biagio Conte. Ils nous donnent un repas et un hébergement.
Les autres sont des sans-abri, des personnes sur le point de perdre leur logement. Un centre est même réservé aux mères seules avec leurs enfants. Au plus fort de l'urgence, près de 1000 personnes se sont serrées sur des lits de camp dans chaque recoin de l'ancien bâtiment à l'abandon, désormais rénové. Même si la messe a lieu chaque matin, personne n'est obligé d'y aller, aucune obligation de prier non plus. Chrétien, musulman, athée, peu importe pour Biagio Conte.
Non si fa differenza.
On ne fait aucune différence entre les personnes, qu'il s'agisse de leur couleur, de leur nationalité, de leur religion, qu'ils soient croyants ou non. Tous ceux qui ont des difficultés, ce qu'on regarde, c'est la personne et l'aide dont elle a besoin. La chose importante ici est qu'on vit tous ensemble et qu'on donne un peu d'espoir. Parfois pour un jour, pour un mois ou pour des années, il n'y a pas de limite.
Qu'ils viennent de Palerme ou d'ailleurs dans le monde, tout le monde est logé à la même enseigne. Un confort souvent spartiate, mais un toit et la possibilité de participer pleinement à la vie de la communauté. Cette opportunité de rendre ce qui a été donné, d'apprendre un métier, revient en boucle dans la bouche du missionnaire palermitain. Son modèle, c'est la communauté Emmaüs de l'abbé Pierre, née en France dans les années 50.
Par exemple, l'un de nos frères a fait une formation pour prendre soin des malades. Il a décidé ensuite de revenir ici pour donner un coup de main. C'est un signe. Toutes les personnes qui sont passées par ici continuent de nous écrire. Ceux qui sont partis à Rome ou dans le Nord, ceux qui sont partis ailleurs en Europe, ils descendent nous rendre visite dès qu'ils le peuvent.
Il faut dire que l'endroit est singulier, tout comme le maître des lieux. Depuis 25 ans, Biagio Conte a renoncé à tout bien matériel et a décidé de suivre la vie de Saint François d'Assise. Maintenant que je n'ai plus rien, je suis enfin serein. Ces mots, ce sont ceux de l'acteur qui joue le rôle de Biagio Conte dans le film éponyme. Le réalisateur Pasquale Cimeca a consacré un long métrage à ce fils d'entrepreneur du bâtiment, destiné à reprendre l'entreprise familiale et athée jusqu'à l'âge de 34 ans. Pasquale Cimeca.
Biagio se définit lui-même comme un humble frère. En réalité, c'est un missionnaire laïque. Il n'a jamais fait ses vœux. À un certain moment de sa vie, il a eu une crise intérieure. Il a renoncé aux biens de ce monde et il est parti vivre en ermite.
Biagio Conte revient de cette période d'ermite avec la conviction qu'il doit aller en Afrique. Il n'y va pas tout de suite, c'est finalement l'Afrique qui est venue à lui, raconte-t-il. Comme cette maman et son fils, ayant survécu à une traversée particulièrement difficile de la Méditerranée. Après un mois, à l'hôpital de Palerme, ils se retrouvent à la rue.
Ils n'avaient nulle part où aller. Donc ici, ils ont trouvé une porte ouverte. On les a accueillis, le petit s'est intégré. Et après 7 ans, il a fait ce dessin absolument bouleversant. Il a voulu dessiner son voyage. Il a dessiné l'Afrique, un bateau de fortune et une grande chaîne humaine jusqu'à la Sicile. Le petit bateau qui, normalement, était arrivé à Lampedusa, lui, il l'a fait arriver au port de Palerme. Ce n'est pas qu'il s'est trompé. C'est juste qu'il se souvient de là où on l'a accueilli et il a fini par dessiner la Sicile plus grande que l'Afrique.
L'Afrique qui pourrait presque être un fil rouge dans la vie de Biagio Conte. Il y a un peu plus de 2 ans, il se rend à Lourdes. Lui qui se déplace en fauteuil roulant depuis des années retrouve soudainement l'usage de ses jambes. Il monte dans un avion pour le Kenya et découvre sur place les bidonvilles de la capitale, Nairobi. Il revient profondément marqué par ce voyage, mais plus convaincu encore que sa place est chez lui, à Palerme, pour faire face à l'afflux de migrants qui arrivent sur les côtes siciliennes.
Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est arrivé de différents peuples. Même nous, nous avons émigré dans le monde entier. Alors si une fois encore on se retrouve face à cet afflux de peuples, à ce qu'on appelle l'urgence des réfugiés, moi, j'y vois un signe éminemment précieux, plein d'espoir, qui vient de plus haut. Pour moi, c'est un signe divin.
Depuis plus d'une semaine, le missionnaire laïque a quitté pour un temps la gare de Palerme et le centre Charité et Espérance et a entrepris à pied un long voyage qui devrait l'amener jusqu'à Rome, la capitale, pour y porter son message.
We'll be proud to say, I am an European.
La surpopulation dans les prisons, la question n'a pas fini d'embarrasser nos gouvernements qui doivent désormais gérer aussi le problème de la radicalisation. Le Premier ministre français a promis un nouveau plan pour les prisons à l'automne alors que le déficit des places paraît chronique depuis 1990. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors peut-on dire qu'on a laissé la situation se dégrader en France ?
D'abord, on ne peut pas dire que rien n'a été fait en France. Depuis 1990, le nombre de places dans les prisons a augmenté de 60%. Le nombre de prisonniers sous surveillance électronique est passé en 10 ans de 1000 à 10 000. De nombreuses peines courtes ont été aménagées, mais depuis 25 ans, le nombre de prisonniers écroués s'est accru en France de 24 000. Résultat, le taux d'occupation qui était de 124% en 1990, soit 24% de population carcérale en excès des places disponibles, est revenu à 104 en 2000 pour repartir ensuite à la hausse, 108 en 2010 et 114 au 1er janvier 2016. Et depuis 6 mois, sous l'effet de l'état d'urgence, le nombre de prisonniers explose, passant de 66 700 en janvier à 69 400 en juillet, soit une hausse de 4%. Du coup, le taux d'occupation remonte à 119. On est pratiquement revenu au niveau de 1990.
Et que constate-t-on chez nos voisins européens sur la même période ?
Nous ne disposons pas des chiffres des tout derniers mois concernant l'Europe, mais à partir des chiffres établis chaque année par le Conseil de l'Europe, on constate que la tendance chez nos voisins est inverse. Si l'on prend les 10 premiers pays d'Europe occidentale, seul le Portugal connaît une dégradation marquée depuis 2010 et affiche début 2016 un taux d'occupation de 137, encore plus catastrophique donc que celui de la France. Partout ailleurs, la situation s'est améliorée en 6 ans et parfois de façon spectaculaire, comme en Italie où le taux a été ramené de 153 à 108. C'est la conséquence d'une politique pénale de substitution à la prison, le nombre de condamnés écroués dans la péninsule ayant diminué de 15 000. À ce jour, seuls 4 pays sont encore en surpopulation, dans l'ordre le Portugal, la France, la Belgique et l'Italie. Le taux d'occupation des prisons est même descendu entre 80 et 85% en Allemagne, en Espagne, en Suède ou aux Pays-Bas. Ce dernier pays va même jusqu'à louer certaines de ses prisons à la Belgique voisine.
Et cela veut dire que ces pays sont moins répressifs ?
Pas forcément. On peut se faire une idée du degré de répressivité en considérant le taux d'incarcération par rapport à la population. En 2015, pour 100 000 habitants, ce taux est très élevé en Angleterre et Pays de Galles, 148, et en Espagne, 143. Il est en revanche réduit en Allemagne, 76, aux Pays-Bas, 60, et surtout en Suède, 55. À cet égard, la France apparaît comme un pays moyennement répressif avec un taux de 100. Attention, degré de répressivité n'est pas synonyme de laxisme. Un nombre réduit de personnes incarcérées signifie que les peines alternatives à l'emprisonnement ont été multipliées, et notamment ce que l'on appelle la détention ouverte, les peines s'effectuant sur des lieux de travail non gardés. Ce système a été particulièrement développé au Danemark.
Et ils obtiennent de bons résultats ?
Alors, moins de gens enfermés et moins longtemps, c'est toujours un bon résultat. Les comparaisons internationales en matière de taux de récidive sont assez délicates à établir, mais une étude américaine fait apparaître que le taux de nouvelles condamnations après un séjour de 2 ans en prison n'est que de 29% au Danemark, contre 48% en Allemagne et 59% en France et en Angleterre. Le système danois de détention ouverte présente toutefois un inconvénient manifeste. Le taux moyen d'évasion entre 2007 et 2013 y est le plus élevé d'Europe, avec 35 évasions pour 10 000 prisonniers. En France, ce taux n'est que de 6,8.
Et qu'en est-il des conditions de vie en prison ?
Le taux de suicide pour 10 000 détenus fourni par le Conseil de l'Europe peut constituer une mesure de la situation morale et psychologique des prisonniers. Dans ce domaine, la France est le pire pays d'Europe occidentale, avec un taux moyen de 15 sur une période 2007-2013.
Et au final, Daniel, comment expliquer les mauvais résultats de la politique pénitentiaire française ?
Longtemps, ce fut le manque de moyens budgétaires dévolus au monde carcéral. Depuis quelques années, cependant, la France a fait des efforts indéniables. Mais avec à peine plus de 100 euros dépensés par jour et par détenu, les dépenses carcérales françaises restent inférieures aux dépenses en Angleterre, 109 euros, en Allemagne, 112 euros, en Italie, 130, et surtout au Danemark, 180 euros, et par-dessus tout en Suède, où ces dépenses atteignent, tenez-vous bien, 356 euros. Mais je vous dirais, Frédéric, que la raison de fond de l'inefficacité de la politique carcérale française tient au manque de cohérence des politiques menées par les majorités successives au pouvoir.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Le tourisme est le secteur porteur en Bosnie-Herzégovine. 20 ans après la fin de la guerre, le nombre de visiteurs connaît une croissance record, plus 28% l'an dernier. Et parmi ces nouveaux voyageurs, on compte de plus en plus de personnes originaires des pays du Golfe. Ils dépensent sans compter, ils investissent aussi, et ils ont choisi la Bosnie car c'est un pays européen et musulmans, mais leur pratique d'un islam rigoriste vient parfois heurter la tradition très libérale de l'islam bosnien. C'est le reportage à Sarajevo de Mercia Nezic.
Le hall de l'hôtel Hollywood grouille de femmes en niqab et d'hommes barbus. Ces touristes sont koweïtiens, qataris ou saoudiens. Ils constituent la principale clientèle de l'hôtel. Les panneaux publicitaires sont écrits en arabe. Derwish tient un bureau de vente immobilière dans l'hôtel. Ce jeune Bosnien travaille pour une entreprise de construction koweïtienne.
On construit des immeubles, on vend des appartements à des Arabes. Depuis peu, l'info circule chez eux qu'en Bosnie, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en mettant en location des maisons, des appartements. Ils viennent ici un mois en vacances et le reste du temps, ils louent leurs biens.
Anvar, justement, est un de ses clients. Il a acheté un appartement à quelques pas de l'hôtel, plus précisément à Ilija, un quartier de Sarajevo prisé par cette clientèle en raison de ses sources thermales. Ce retraité koweïtien vient régulièrement ici depuis 5 ans. Il se sent très à l'aise dans ce pays en partie musulman.
D'abord, tout est à des prix raisonnables. En plus, la nourriture est bonne. En plus, nous venons de pays musulmans où les femmes sont voilées. Quand elles se baladent ici, elles n'ont pas l'impression d'être étranges. Il y a beaucoup de musulmanes bosniennes qui s'habillent pareil, elles se voilent.
Ces visiteurs apprécient les mosquées, ils font aussi beaucoup de shopping et dépensent jusqu'à 300 euros par jour, plus que les autres touristes. Ils font vivre les boutiques haut de gamme du Sarajevo City Center. C'est le plus grand centre commercial des Balkans. Il appartient au premier investisseur privé du pays, Suleyman Al-Shidi. L'homme d'affaires saoudien tient aussi un hôtel, le Bristol, pour cette clientèle. Un deuxième ouvrira ses portes bientôt. Dans les bars et les restaurants de ces établissements, l'alcool est interdit, en toute logique pour son assistante bosnienne Nujeyma Skenderovic.
Le propriétaire, M. Suleyman Al-Shidi, vient d'Arabie Saoudite. Il est musulman. Si l'on respecte les préceptes religieux, c'est-à-dire la loi de la charia, l'un des principes est de ne pas boire et de ne pas servir d'alcool.
Les familles venues des pays du Golfe recherchent ces lieux sans alcool, comme ce restaurant turc dans la vieille ville de Sarajevo, ami René Le Gérant.
Et pourquoi ne pas faire sans alcool après tout ? La nourriture que nous servons est aussi halal. Et ça, c'est un avantage également quand il s'agit des Arabes. Les gens ne réfléchissent pas. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais moi, je peux vous dire que notre chiffre d'affaires a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. C'est grâce à ces touristes, ça c'est sûr.
Mais ces nouveaux venus soulèvent des critiques. Ils pratiquent un islam rigoriste, les musulmans bosniens sont libéraux pour la plupart, les salafistes restent marginaux. Myriam est une musulmane croyante de 23 ans. Elle ne supporte pas de voir ses femmes en voile intégrale dans les rues.
Ma cousine qui a 5 ans, la petite, elle est choquée quand elle voit des gens comme ça. Concrètement, quand je rentre avec elle dans le Sarajevo City Center et qu'elle voit ces femmes entièrement couvertes, l'enfant pleure. C'est effrayant. Ce qui fait peur aux gens, c'est qu'en arrivant ici, ils importent des choses comme ça en Bosnie et que la Bosnie change. Nous avons des femmes ici qui sont musulmanes, mais qui ne sont pas voilées ni en burqa.
Le mode de vie bosnien n'est pas menacé, rétorque l'assistante de Souleymane Al-Chidi. La jeune femme insiste, elle-même n'est pas voilée.
Les gens ne voient pas les pays du Golfe comme ils sont, j'en suis la preuve. Regardez ma position dans cette grande compagnie, j'y suis l'égale des hommes, si l'on regarde les choses d'un point de vue féministe.
Hamdo Yubovic est le premier maire à avoir dit oui à un investisseur koweïtien. Un village de vacances réservé à cette clientèle vient d'ouvrir dans sa commune. Le Sarajevo Resort est à une demi-heure seulement de la capitale bosnienne. Il aurait coûté 25 millions d'euros. Le pays a besoin de ces investissements, dit le maire à ceux qui le critiquent. La Bosnie est écrasée par le chômage. La moitié de la population ne trouve pas de travail. Hamdo Yubovic est le maire de Adici.
Soit vous avez des Arabes, soit vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ou redistribuer avec rien ? Grâce à ce chantier, il y a des fiches de paix, des gens vont entretenir tout ça, faire le gardiennage, ça crée des emplois. On va aussi pouvoir vendre aux touristes nos produits locaux ou leur proposer des services.
Dans certains cas, l'emploi reste tout de même soumis à conditions. Les guides ou chauffeurs de ces nouveaux touristes arabes sont souvent issus des rangs salafistes en Bosnie, tout comme certains agents immobiliers.
Et on terminera notre voyage européen avec une drôle de destination. À 8h30 d'avion de Moscou en plein océan Pacifique sur la péninsule de Kamtchatka, on a édifié un monument qui représente deux ours avec cette inscription qui fait rêver. C'est ici que commence la Russie. Étienne Bouche est allé y jeter un œil.
Si l'ours est l'un des emblèmes de la Russie, il l'est d'autant plus au Kamtchatka. Sur ce territoire russe d'Extrême-Orient, on peut apercevoir l'été le long des rivières des ours pêcher des saumons couleur carmin. Pour un habitant de Moscou, le Kamtchatka, c'est l'autre bout du monde, un morceau de Russie qui fait fantasmer les voyageurs. Moins d'un habitant au kilomètre carré. À 9 fuseaux horaires de la capitale, la péninsule a été découverte au XVIIIe siècle par Vitus Bering, celui qui a donné son nom au détroit séparant la Russie et l'Alaska. L'explorateur danois travailla au service de l'Empire russe et fut chargé de mener des expéditions en Extrême-Orient. Il devait notamment y trouver la fin du continent. La seule ville significative de la péninsule, Petropavlovsk, a été fondée à cette période. Sa position géographique a fait du Kamtchatka une zone militaire stratégique. C'est pour cette raison qu'il fut un territoire fermé jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Depuis, faute de perspectives économiques, la région a perdu une partie de ses habitants. Mais depuis quelques années, sa nature sauvage et son relief volcanique attirent les touristes, russes et étrangers. On y trouve plus de 300 volcans éteints et 30 en activité. Une partie d'entre eux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Forcément, le Kamtchatka est l'une des fiertés des Russes. Son monument aux ours faisait d'ailleurs partie des visuels en lice pour figurer sur les futures coupures de 200 et 2000 roubles.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. Accent d'Europe, à demain.